Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission réalisée entièrement en confinement avec les outils les plus modernes de distanciation sociale. Alors, si toutes les caméras de l'information continuent, tous les réseaux sociaux aujourd'hui sont braqués sur la pandémie de coronavirus, il n'en a pas toujours été de même dans le passé. Alors, sans même remonter jusqu'à la fameuse grippe espagnole de 1918-1919, tombée dans les oubliettes de l'histoire et dont on se souvient d'ailleurs régulièrement pour la réoublier aussitôt, qui se souvient de la meurtrière grippe de Hong Kong qui tua des dizaines de milliers de personnes en France en 1968-69 et environ 1 million dans le monde. Pourquoi est-elle passée à ce point inaperçue? Nous tenterons de le comprendre avec Patrice Bourdelais, historien de la santé publique. Tandis qu'avec Joël Chandelier, spécialiste de la médecine médiévale, nous tenterons de distinguer les mythes des réalités de la grande peste du Moyen-Âge, la peste noire, la terrible peste noire de 1347. Enfin, entre les deux, Mathilde Larère nous ramènera en 1832, où, qui s'en souvient de la même manière, en France, ont connu une meurtrière épidémie de choléra. Alors, je voudrais qu'on commence avec vous, Joël Chandelier, par l'histoire de la peste noire, cette terrible peste noire, et que vous nous racontiez un peu comment elle survient au XIVe siècle. Alors, si j'ai bien compris, et si j'ai bien lu le formidable fil sur Twitter de nos amis de Actuel Moyen Âge, extrêmement pédagogique, le contexte de cette peste noire est un peu particulier, c'est-à-dire que ce qu'il faut peut-être souligner d'abord, c'est son contexte climatique, Joël Chandelier.
Alors, c'est-à-dire que ce qui se passe en 1347 et qui se continue dans les années qui suivent, hein, 1348, 49, 50, c'est effectivement une maladie qui vient d'Orient, un peu comme celle qui nous concerne aujourd'hui, qui vient donc d'Asie centrale et qui se répand en Méditerranée, d'abord par l'Italie d'ailleurs, et puis ensuite dans tout le reste de l'Europe. Alors effectivement, pour ce qui est des aspects climatiques, on a des explications pourquoi en fait ce genre de peste explose d'un coup. Elle avait disparu depuis le 8e siècle, donc ça faisait vraiment très très longtemps qu'elle avait disparu. Pourquoi? Eh bien, justement, les historiens pensent qu'effectivement, il y a des modifications climatiques qui ont pu contribuer à cette explosion, mais aussi des modifications sociales et économiques surtout. Et ça, je pense que c'est un point qui est évidemment fondamental.
Alors, pour serrer un peu, là, on a un schéma sous les yeux qui a été donc publié par Actuel Moyen Âge sur Twitter. Alors, on voit que les températures s'élèvent à peu près de l'an 700 jusqu'à l'an 1300. C'est ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. Et qu'ensuite, elle chute à partir de 1300.
Oui, tout à fait. Les études climatiques ont permis de voir des évolutions sur le climat, sur le très long terme, bon, assez lentes hein, en réalité. Et il est clair que la période d'optimum médiéval, donc qui va en gros du 8e au 9e siècle jusqu'au 13e siècle, est une période du coup de croissance économique, agricole hein, surtout à l'époque, qui permet une augmentation du nombre des hommes. Or, à partir des alentours de la fin du XIIIe siècle, de 1300, il y a un retournement qui va durer très très longtemps, hein, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, et qui a probablement, alors c'est sans doute pas la seule raison, hein, mais a favorisé à la fois un affaiblissement général des populations parce qu'il y avait des crises agricoles, et aussi l'expansion de nouvelles épidémies ou le retour d'anciennes épidémies comme celle de la peste.
D'accord. Alors donc, elle arrive en Asie. Hein. D'ailleurs, on va remarquer dans cette émission que la plupart de ces grandes pandémies arrivent d'Asie. Je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer.
Mais je ne sais pas justement. En fait, il y a déjà une des raisons principales pourquoi ça vient d'Asie. Déjà, c'est que la concentration de population dans certaines régions d'Asie favorise évidemment la diffusion. Pour ce qui est de la peste noire, on pense aujourd'hui que ce qui a favorisé le passage de cette maladie qui existe à l'état endémique, hein, de toute façon, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui apparaît d'un coup, elle a toujours existé, elle existe encore aujourd'hui dans ces régions-là. Mais la question, c'est pourquoi devient-elle d'un coup une pandémie. Et ce qui fait vraiment cette différence, outre les aspects climatiques, donc qui favorisent le développement des germes, c'est surtout les échanges, parce qu'à l'époque, l'Asie est en contact avec l'Europe via le monde mongol. Hein, c'est le plus grand empire qui ait jamais existé en Eurasie, qui va donc de la Chine jusqu'à aux frontières de l'Europe centrale. Et donc, il y a des communications très importantes, commerciales, politiques, des échanges de populations. Et bien ça favorise la diffusion. Donc, la question, c'est évidemment pourquoi ça vient d'Asie, ça c'est plus délicat. En revanche, pourquoi ça se développe à ce moment-là, c'est pas du tout un hasard. Hein, c'est lié aux conditions, disons, géopolitiques, on va dire.
Alors, voilà sur l'image en même temps un petit animal tout à fait adorable qui s'appelle la gerbille et sur lequel, sans dénoncer personne, pèse quand même des soupçons assez lourds. Joël Chandelier.
Ah oui, alors on accuse la gerbille, le rat ou d'autres petits rongeurs. En fait, la peste est un peu comme d'ailleurs le coronavirus, est une maladie qui touche les animaux, d'abord, et notamment ces petits rongeurs. Or, donc il existe de manière permanente. Or, il peut passer à l'homme si les conditions deviennent différentes, si les animaux, par exemple, se déplacent, ou si la population d'animaux qui fournit, disons, la matière pour la maladie disparaît. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, probablement, le climat, l'évolution du climat au début du XIVe siècle a favorisé, donc, en Asie centrale, hein, on se trouve au Kazakhstan à peu près, enfin, à la frontière du Kyrgyzstan et du Kazakhstan et de la Chine. Et dans ces régions-là, les populations de rongeurs se sont déplacées et ont rencontré ces grands mouvements de population liés à l'Empire mongol. Et donc, c'est ça, en fait, qui a créé la possibilité du passage de l'animal à l'homme.
Et alors, évidemment, c'est tout à fait passionnant parce que si on fait le parallèle avec aujourd'hui où le soupçon a été porté sur le pangolin, qui est une espèce en voie de disparition, on peut penser effectivement qu'il y a un lien entre l'instabilité démographique ou géographique d'une espèce et effectivement la transmission de l'animal à l'homme. Donc, on voit bien les constantes. Alors, cette peste, donc vous le disiez, voilà, elle part de Mongolie, elle arrive en Inde, au Kurdistan, en Chine, elle arrive à Kaffa, qui est un comptoir génois sur la mer Morte, et évidemment de là, par les échanges commerciaux, comme vous le disiez, Joël Chandelier, elle va passer en Europe, d'abord à Gênes, de Gênes à Marseille, hein, c'est comme ça qu'on a retrace, et ensuite de Marseille à toute l'Europe. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'on peut presque aujourd'hui la suivre à la trace, quoi. Géographiquement, on peut suivre sa progression à la trace. On fait comment d'ailleurs ?
Ben, en fait, il suffit de regarder les chroniqueurs locaux qui racontent l'arrivée de la peste. Par exemple, à Constantinople, ben, c'est les Génois, Kaffa, c'est donc au nord de la mer Noire, hein, c'est donc en Ukraine aujourd'hui, et les chroniqueurs de Constantinople, de Byzance, disent, voilà, les marins génois sont arrivés, et quelques temps après, la peste est arrivée. Donc, même chose à Gênes, à Marseille, et la nouvelle va plus vite en réalité que la maladie, puisque on sait que certains chroniqueurs disent « on sait qu'elle est dans telle ville et elle va bientôt arriver ». Donc, c'est, en fait, effectivement, comme on a beaucoup d'auteurs qui écrivent, on a des médecins, ben on sait exactement sa progression. C'est pour ça qu'on a pu faire des cartes de diffusion très, très précises.
La nouvelle va plus vite que la maladie. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, en fait, on pourrait prévoir son arrivée avant qu'elle arrive.
Oui, c'est ça. Alors, c'est lié au fait notamment que la peste se diffuse essentiellement via les rongeurs et les piqûres de tiques, hein, qui sont sur les puces, des tiques qui sont sur les rongeurs, ce qui fait qu'eux se déplacent assez lentement, hein, au rythme des bateaux, par exemple, ou des caravanes. Et donc, il y a des voyageurs qui vont plus vite et qui annoncent les informations. Quand elle est pulmonaire, c'est-à-dire qu'elle transmet d'individu en individu, évidemment, ça va encore plus vite, mais malgré tout, les nouvelles précèdent toujours l'épidémie elle-même.
Alors, Patrice Bourdelais, la grippe de Hong Kong, alors là, on fait un saut par-dessus les siècles. Patrice Bourdelais, la grippe de Hong Kong, donc je rappelle, 1968-1969, elle suit à peu près le même itinéraire.
Oui, c'est une grippe qui naît aussi au contact, parmi les populations asiatiques, et en particulier les chinoises, et dont la première manifestation internationale visible se situe à Hong Kong, au milieu de l'année 1968, puis en à peu près une année, elle fait le tour du monde. C'est la première pandémie, j'allais dire, liée à l'essor du trafic aérien, ce qui explique aussi la rapidité de l'évolution. C'est une épidémie très, très curieuse. Moi, je l'ai vécue et je n'en ai aucun souvenir.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 20 ans. Oui. Et donc, je n'en ai aucun souvenir. Alors, on me dira à 20 ans, la grippe, c'est un souci secondaire, mais tout de même, c'est très curieux. Et la presse en a assez peu parlé, un peu, hein, on trouve des articles évidemment, mais pas énormément. Et les épidémiologistes n'avaient pas travaillé sur ce sujet jusqu'à ce que Antoine Flahault et Valeron, confrontés à la gravité du possible du SRAS en 2003-2005, décident de travailler vraiment sur la grippe de Hong Kong et sa mortalité en France.
Avant de revenir sur cette indifférence de l'époque, il faut rappeler que c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de morts en France et 1 million dans le monde. Alors, en 2005, il y a eu un papier très complet, un article très complet dans l'opération, mais donc 2005, hein, c'est-à-dire très longtemps après, revenant sur cette grippe de 68, avec des témoignages de médecins qui étaient internes à l'époque, qui étaient très jeunes à l'époque en 68, et qui racontent, c'était affreux, les gens mouraient d'hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, les gens étaient tout gris, ça frappait tous les âges, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans et plus. Et donc, en effet, tout le monde s'en fichait. Alors, vous parliez, Patrice Bourdelais, d'indifférence médiatique. Je voudrais qu'on écoute d'abord un reportage télé de l'ORTF. On est en 1968, on est donc un an avant que cette pandémie frappe très violemment. Elle existe déjà, elle est déjà présente à l'étranger, elle n'a pas encore frappé la France, on écoute.
Mais la grippe de Hong Kong menace-t-elle la France? Le docteur Cataigne va nous répondre.
En France, il n'y a pas d'épidémie pratiquement en ce moment, ni en Europe non plus. Il y a eu quelques cas qui ont été décelés en Angleterre et aux Pays-Bas, je crois. Enfin, il n'y a pas de véritable épidémie en France.
Mais est-ce que cette épidémie à virus de Hong Kong pourrait venir en Europe?
Bien sûr, elle peut venir en Europe, puisqu'elle est déjà aux États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'elle ne parvienne pas en Europe. Mais enfin, je pense qu'elle n'évoluera pas comme la pandémie de 1957, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas, qu'elle ne touchera pas le monde entier à la vitesse à laquelle toute notre planète a été touchée en 1957. Il n'y a pas lieu de s'affoler, parce que cette épidémie évoluera probablement comme une épidémie saisonnière assez banale.
Alors, on était en 68, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire un an avant que la pandémie frappe la France. Un an plus tard, en décembre 69, alors qu'on est le mois de décembre et le mois du pic de l'épidémie, écoutez sur quel ton l'ORTF, encore, traite le sujet.
Moins 7 degrés pendant la nuit, vous sortez le matin, à tchoum, vous êtes grippé. Rassurez-vous, si l'on peut dire cela, vous n'êtes pas le seul. Un Français sur quatre a la grippe. La maligne, on ne sait jamais si elle est espagnole ou de Hong Kong. Ce qui est certain, c'est qu'elle vous laisse le temps de sortir votre mouchoir, de vous montrer dans l'autobus ou au bureau le regard brillant avant de vous clouer dans votre lit. Somme toute, après 3 jours de grog, d'aspirine et d'édredon bien chaud, cela n'est pas si désagréable. Si vous avez été épargné jusqu'à maintenant, il vous reste encore une ressource, le vaccin antigrippal.
S'il en reste.
On entend le ton là, Hatchoum, vous êtes grippé, alors que dans des régions entières, comme aujourd'hui, les écoles et les établissements scolaires sont fermés, alors que les transports publics ont beaucoup de mal à fonctionner, alors que, encore une fois, des milliers de gens meurent dans des souffrances atroces. Comment Patrice Bourdelais, expliquer la différence de perception entre 68-69 et aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui entrent en jeu. Évidemment, il y a d'abord une forme d'évolution de la sensibilité par rapport à la maladie et à la mort. Aujourd'hui, tous les chiffres de mortalité sont très faibles. Donc, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'épidémie qui se développe, d'autant plus que les pouvoirs publics ont appris petit à petit que leur responsabilité est très fortement engagé, que s'ils s'en tirent très bien, c'est un surcroît de légitimité, que sinon, ça peut créer des problèmes supplémentaires en termes de gouvernance et de problèmes sociaux. En 68-69, on a quand même à régler et à gérer, au fond, l'après-68, qui n'a pas été un petit événement en France non plus. Donc vous avez des grèves dans à peu près toutes les entreprises tout au long de l'année 68 et de l'année 69. Vous avez une nouvelle élection présidentielle, Georges Pompidou arrive au pouvoir, essaie de relancer une forme de à la fois l'économie et un dialogue social en France. Vous avez pour la première fois les médias qui s'intéressent en images à la guerre du Biafra et à l'épidémie et à la famine au Biafra. Donc vous avez énormément de sujets internationaux, au fond, et nationaux qui occupent l'agenda médiatique et politique. Et du même coup, cette grippe qui, bien qu'étant de Hong Kong, et on voit bien qu'en arrière-plan, la hantise des spécialistes, mais ce sont les spécialistes, c'est effectivement la grippe asiatique de 57-58. Mais immédiatement, on n'a pas l'impression en France que cette grippe pourra... Et puis on est à la fin des Trente Glorieuses aussi, je pense que ça compte, dans l'esprit collectif d'optimisme global, d'idéologie du progrès, de victoire renouvelée, des antibiotiques. Il y a toute une culture, au fond, assez largement partagée du progrès qui fait qu'on n'est pas très inquiet sur le plan des nouvelles épidémies. Vous parliez de décembre. En décembre, il y a 25 000 morts en France. Et c'est sur... oui, donc c'est quand même quelque chose. 25 000 décès de grippe en France en décembre 69.
Mais alors, finalement, l'indifférence, c'est autant un problème de, on va dire, d'insensibilité collective que le fait que le pouvoir politique aurait tenté de... Parce qu'on sait qu'à l'époque, par exemple, l'ORTF est sous le contrôle étroit du pouvoir politique. Ouais, donc, on se dit peut-être que les politiques ont passé des consignes selon lesquelles il ne fallait pas trop en parler. Mais non, mais pas du tout. Vous parlez d'un...
Je ne peux pas vous dire non plus. Peut-être y a-t-il eu des consignes, je ne sais pas. D'autres journaux, c'est une épidémie qui s'est énormément répandue dans le sud-ouest de la France. Et donc le journal Sud-Ouest, lui, a fait quelques articles, effectivement, au cours de l'année 69, sur l'extension d'épidémie, mais jamais sur un ton aussi alarmiste que seraient pensés les 25 000 décès de ce mois de décembre, au fond. Notre Noël 69 aurait dû être catastrophique.
Ouais, on peut aussi souligner le rôle aujourd'hui des réseaux sociaux et de l'info en continu, qui contribue évidemment à braquer la loupe sur ce sujet. Alors, cela dit, c'est l'époque aussi 68-69 où les radios périphériques découvrent l'info continu, puisqu'elles ont couvert en info continu mai 68. Donc voilà, sur le plan de l'information, c'est une période charnière.
Oui, absolument. Et d'autant plus finalement curieux d'ailleurs qu'elle ne se soit pas emparée de ce sujet de la grippe de Hong Kong à la fin de l'année 1969. 25 000 morts, c'est quand même moi ce qui me frappe. Hein. 25 000 morts en un mois, vous imaginez aujourd'hui ce que ça donnerait.
On a du mal à imaginer. Joël Chandelier, ce n'est pas votre période à vous, mais vous avez regardé de près cette grippe de Hong Kong?
Pas de près, mais c'est effectivement, je pense que d'un point de vue de l'effet sur la société, ce n'est pas si différent, en tout cas pour l'instant, potentiellement de ce que l'on a aujourd'hui. Mais effectivement, la société est très, très différente. Et ça montre ce que disait Patrice Bourdelais, que les épidémies, c'est un révélateur aussi des sociétés. C'est-à-dire que leur réaction au danger et à la maladie révèle quelque chose de leur organisation, de leur psychologie collective aussi. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et peut-être que précisément, il faudra s'interroger sur les réactions aujourd'hui, qui sont légitimes au point de vue scientifique, bien sûr, mais pourquoi ne sont-elles différentes de celles qu'on avait il y a 50 ans, c'est pas il y a si longtemps.
Bon, on va voir si on est capable d'esquisser des pistes. Alors, les réactions de la société, on va maintenant prendre une épidémie qui est, d'une certaine manière, entre les deux, avec toi, Mathilde, l'épidémie de choléra en 1832, qui, si je ne m'abuse, arrive aussi d'Asie.
Oui. Alors, d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Et j'en profite pour remercier tous les travailleurs qui sont obligés de travailler, les soignants, les postiers, etc. C'est de fait un bon courage, prenez soin de vous et tout ça. Alors, effectivement, si on est entre historiens des épidémies, le 19e siècle, il a la carte choléra, lui. Et non des moindres, puisque c'est ce qu'on appelait la peur bleue. Alors, je vais parler essentiellement de l'épidémie de 1832, qui est celle qui a le plus marqué. On s'en souvient sans doute même plus d'ailleurs que la grippe de Hong Kong. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu 7 pandémies de choléra qui ont marqué le 19e et le 20e siècle, notamment la France. Mais celle qui a le plus marqué, c'est celle de 32, qui n'est pas forcément celle qui a fait le plus de morts. Alors, pour en suivre la diffusion, comme on l'a fait pour la peste. Donc, le choléra fait aussi son apparition en Asie, puisqu'il commence, lui, en Inde. Et sa progression est un peu différente, puisqu'il passe d'abord par Moscou, la Russie, où il arrive en 1830, la Pologne, la Finlande, toujours en 1830. Il atteint Berlin en 1831, les îles britanniques en février 32, et il arrive donc en France en mars 1832. Par la suite, il passera l'Atlantique, d'abord par le Québec, Ontario et Nouvelle-Écosse. Il entre ensuite aux États-Unis par Détroit et New York et atteint l'Amérique du Sud en 33. Il va perdurer jusqu'en 1848 où une nouvelle vague arrivera en Europe. Bon, alors revenons un peu à la France. Ce qui est intéressant sur la France, c'est que comme on l'a vu pour la peste, comme on l'a vu ici pour la grippe, enfin, actuellement le coronavirus, comme on l'a vu pour la grippe de Hong Kong, on savait qu'elle arrivait, les journaux en parlaient. Pour autant, alors qu'en mars 32, tous les journaux parlaient de l'épidémie hors de nos frontières, les Parisiens s'en moquaient au début de mars 32. Dans la rue, les enfants jouaient, par exemple, au choléra morbus. On était en train de préparer le carnaval et il y avait des masques du choléra comme pour railler la maladie. La première victime est attestée le 26 mars 1832 au cœur du carnaval de la mi-carême. À partir de là, ça va très vite, même si c'est moins rapide que la grippe de Hong Kong. Le 7 avril, on a déjà 1853 cas répertoriés. L'épidémie fera à Paris 19 000 victimes en 6 mois, autant à Marseille, et 100 000 sur tout le territoire. Alors, pour comprendre le choc qu'a été l'épidémie de 1832, il faut rappeler, et ça fait un lien avec ce qu'on a dit sur 1959-60, l'épidémie, elle touche une nation qui se croyait complètement protégée par le progrès de sa science et sa civilisation, donc qui nous semble limitée maintenant par rapport à nous, mais à l'époque, il y avait cette confiance, parce qu'il n'y avait pas d'épidémie depuis un siècle, la dernière étant celle de la peste en 1720, qui avait été confinée à Marseille essentiellement. Et ce qui a beaucoup choqué les contemporains aussi, c'est que c'est une maladie qui a des manifestations très impressionnantes. La peur bleue vient du fait que les malades étaient bleus avant de mourir. Alors, dans un tout premier temps, quand elle arrive en France, les journaux vont publier des textes absolument anxiogènes, comme vous pouvez le découvrir dans cet extrait du Constitutionnel du 29 mars. C'est plus dangereux que la peste, désolation et la mort. Enfin, de quoi faire flipper toute la population. Face à la panique, l'État va essayer de rassurer la population, va d'ailleurs rappeler aux journaux de ne pas faire paniquer la population et va multiplier des communications rassurantes, disant bien non, il faut rassurer les esprits, il ne faut pas s'inquiéter, c'est moins inquiétant que la peste, etc. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, voilà, c'est une maladie grave, mais il y a plus effrayant. Ça ne change pas grand-chose, la panique gagne. Le 31 mars, dans Paris et de nombreuses villes en émoi, on ne parle que de l'épidémie. Par exemple, sur le pont Neuf, aux mains de la statue d'Henri IV, on a mis un drapeau noir. Certains s'enfuient de terre en province, selon un phénomène que l'on retrouvera dans toutes les épidémies et qui a eu lieu ici aussi, avec cette fuite des Parisiens, qui est un grand classique et qui a pour effet tout aussi classique de diffuser la maladie partout sur le territoire. Alors, à ceux qui restent, la capitale n'offre au printemps 32 que des rues désertes, fermées, les boutiques des quais, les bouquinistes sur les parapets, etc. Les rares passants, de deuil vêtus, se hâtent d'un pas inquiet, un mouchoir sur la bouche. Chacun se garde son voisin, on ne voit guère de rassemblement qu'aux portes des pharmaciens. Pharmaciens qui, comme il n'y a pas de petits profits, font monter les prix. À l'époque, on pensait que le camphre protégé du choléra, il passe de 5 à 24 francs, un peu comme de nos jours. C'est une pharmacie du 16e arrondissement qui a piqué des masques et les a vendus à 10 euros pièce. Le bruit, de toute façon, se répand que les riches ont accaparé tous les médicaments en 1832. Les pompes funèbres sont débordées, les corbillards manquent, d'urgence on en commande, mais en attendant, on va demander des fourgons au ministère de la Guerre, comme ça a été le cas à Bergame, vous avez dû malheureusement le voir. La municipalité choisit d'enterrer les gens de nuit pour que les gens ne prennent pas la mesure du nombre de victimes. Il s'agissait donc d'éviter la panique, mais ça a l'effet exactement inverse, parce que comme la nuit fait peur, que l'on enterre les gens de nuit a augmenté les alarmes. Il y a eu un mouvement d'ailleurs de protestation des ouvriers des pompes funèbres qui se sont refusés à faire du ramassage des corps. Ils disaient, je cite, « Nous préférons la vie à votre haute paye ». Bon, on en a quand même trouvé qu'on est allé chercher pour faire ce travail qui était de fait contaminant. L'épidémie va atteindre son maximum mi-avril, rester ensuite stationnaire pendant 6 jours et commencer légèrement à décroître. Elle est moins forte en mai-juin, mais il y a un nouveau rebond en juillet avant que de décroître à nouveau. En octobre 32, on la considère comme éteinte. Donc, c'est quand même assez long.
Alors, tu disais, Mathilde, tu faisais allusion à un phénomène, c'est l'exil des Parisiens vers les campagnes. Et évidemment, ça ne peut pas ne pas parler aux témoins de la pandémie d'aujourd'hui, où un phénomène identique s'est produit, comme le montraient ces sujets de CNews.
Arcachon, île de Ré, belle île en mer, les Parisiens sont nombreux à s'être mis au vert pour le confinement, mais ils ne sont pas forcément les bienvenus, Solène.
Leur présence fait craindre notamment une multiplication des contaminations.
Deux habitants se promènent sur cette plage de la Couarde-sur-Mer alors que l'accès y a été interdit. Pour eux, pas de danger.
Quand on va dans un magasin, on est beaucoup plus près des gens. Là, on est en couple, on voit personne. Où est-ce qu'il y a un risque de propagation ?
Problème, ce sont souvent les Parisiens propriétaires de résidences secondaires sur l'île de Ré qui ne respectent pas les règles de confinement imposées.
Ils ont été obligés de fermer les plages pour que les gens n'accèdent pas à la plage. Ils ferment les pistes cyclables pour que les gens ne circulent pas à vélo, comme s'ils étaient en vacances. Je veux dire, et nous, à côté de ça, on en pâtit aussi, quoi.
Même son de cloche du maire de la commune, il constate le retour massif des résidents non permanents rien que dans cette rue.
Régulièrement, il n'y a que 2 maisons d'ouvertes et on voit qu'il y a 4 maisons ou 5 maisons en plus qui sont ouvertes. Je le répète, on n'est pas en vacances, on est en confinement. Et si on vient ici dans sa résidence secondaire, eh bien on est confiné, on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est un peu ce message qu'on a voulu passer en étant un peu restrictif par rapport notamment aux plages et aux pistes cyclables.
Alors, ce qui est tout à fait fascinant, Joël Chandelier, c'est que le même phénomène se produit au Moyen-Âge, au moment de la peste noire.
Oui, tout à fait, c'est très connu. En fait, le reportage dit parisien, ce qui est sans doute vrai, mais en fait, ce sont les élites bourgeoises des villes. Donc, c'est certainement aussi les Bordelais qui vont à Arcachon, etc. Et ça, c'est un phénomène qu'on trouve partout. C'est très connu pour, par exemple, Florence. Hein, Florence, il y a un texte magnifique. Bocasse, le Décaméron, qui commence comme ça. La ville est frappée par la peste en 1347-48 et des jeunes gens de très très bonne famille vont à la campagne et décident de passer du bon temps. Et en fait, alors que tout le monde meurt d'un côté, on le voit sur des enluminures de l'époque, donc dans la ville, les gens meurent et les cadavres s'accumulent. De l'autre, des jeunes gens prennent du bon temps à la campagne et profitent. Alors, il y a une justification médicale pour eux, c'est de dire on fuit la zone de contamination, mais évidemment, les historiens pensent aujourd'hui que ça a contribué fortement à la diffusion de la maladie aux campagnes aussi, qui n'ont pas du tout été épargnées par l'épidémie. Donc, c'est vraiment un phénomène très courant et qui est assez classique, disons, des élites, parce qu'il faut avoir les moyens de partir à la campagne, il faut avoir un lieu de villégiature, et qui fait que souvent, les élites ont été moins touchées par la peste. Hein. La peste a touché 50% de la population en Europe, c'est les estimations actuelles. Mais par exemple, si on se tourne du côté des cardinaux de la cour d'Avignon et de leur entourage très riche, ça tourne plutôt autour de 15-20%. Donc finalement, ça marche d'une certaine manière, mais au détriment des populations rurales.
Patrice Bourdelais, on retrouve le même phénomène dans d'autres épidémies ?
Pratiquement dans toutes, c'est l'application du conseil d'Hippocrate, hein, partir tôt, loin et longtemps. Voilà, c'est simple.
Ah, je ne le connaissais pas.
Donc, voilà. Et dans toutes les épidémies, vous avez ce phénomène. Lors de l'épidémie de choléra, la même chose. En 1832, tout le monde essaie de partir de Paris au moins puisque c'est en 1832, c'est surtout le bassin parisien qui est contaminé. Il faudra attendre l'épidémie 1854 pour voir le sud de la France contaminé à son tour. Et ça, c'est révélateur d'une modification de la structure des échanges entre les deux dates. C'est-à-dire que vraiment, les épidémies sont des moments qui révèlent beaucoup des structures sociales, des liens sociaux, des rapports sociaux, mais aussi de la structure des échanges dans leur ensemble.
Qui révèle d'ailleurs cruellement, ce qui pose aussi d'ailleurs la question des politiques publiques et des politiques notamment d'ordre public au moment des pandémies. Pour l'illustrer, je voudrais qu'on voit un extrait d'un reportage du journal de France 2 de cette semaine montrant des interventions policières pour essayer de faire respecter le confinement, mais les montrant dans différents endroits du territoire, et on voit qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes.
C'était cet après-midi dans le 18e arrondissement de Paris.
Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir un client, quoi qu'il aille.
Une rue très fréquentée, presque comme si de rien n'était.
On est là pour vous, respectez les consignes. On est sur les boutiques. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant, vous gardez un mètre de distance, là.
Un mètre. C'est pas bien, mais...
Et vous sortez les attestations et vous...
L'attestation de déplacement dérogatoire. C'est depuis ce midi le sésame qu'il faut présenter aux forces de l'ordre pour se déplacer. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas leur attestation, les policiers se sont aujourd'hui montrés compréhensifs, comme ici, à Lille.
J'imagine que tout le monde a un motif légitime, mais veillez à bien vous munir, parce qu'aujourd'hui, on est donc dans l'action pédagogique. Mais bien évidemment, le confinement ayant été décidé, il faut absolument... C'est une solution collective. Tout le monde doit agir en ce sens.
Merde. C'est bien, vous l'avez. Il faut la remplir.
Même scène dans le sud, avec la gendarmerie.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Est-ce que vous avez les attestations? Par contre, regardez, vous êtes à moins d'un mètre l'un de l'autre.
Ah oui. Là,
donc s'il y en a un qui est malade... Il peut contaminer l'autre.
Entièrement raison.
En plus, vous êtes des personnes âgées, vous êtes classées à risque.
Voilà, alors pour ceux qui nous regardent et ceux qui ne sont pas forcément parisiens, je le dis, la première scène qu'on a entendue, c'est donc dans le 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier extrêmement populaire et à très grosse concentration de population issue de l'immigration. Les autres scènes se déroulent dans des quartiers, on va dire, moins identifiés. Voilà, et on voit que le ton n'est pas du tout le même. Est-ce que, Joël Chandelier, s'agissant des politiques publiques, c'est-à-dire de la réponse apportée par les pouvoirs, le pouvoir royal, le pouvoir féodal, je ne sais qui, vous avez des choses qui rappellent ce deux poids, deux mesures et ce deux tons, si j'ose dire, selon qu'on s'adresse aux classes populaires ou aux riches et aux nobles?
Alors, il n'y a pas vraiment ce genre de... Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures différentes. En revanche, il est clair qu'on prend plus soin des élites, c'est-à-dire qu'on fait attention, on leur permet, par exemple, de se déplacer, alors qu'on ne peut pas se déplacer quand on est effectivement pauvre, paysan, on n'a pas le droit de changer de ville, d'aller fuir, on est contraint à rester dans sa ville. Au-delà de ça, ce qui est absolument certain, c'est que l'image des populations, des classes populaires, disons, comme vecteur de l'épidémie par leur incivisme, par leur hygiène dégradée, par toutes sortes de défauts qui sont de toute façon déjà considérés comme propres aux classes populaires. Ça, c'est absolument certain. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on quitte les villes. C'est-à-dire qu'on quitte les villes non pas pour aller avec les paysans de la campagne, mais pour aller dans ces résidences, dans ces châteaux, donc isolés aussi du peuple. Et ça, le peuple comme vecteur de diffusion, en raison de ces défauts presque congénitaux, ça c'est vraiment quelque chose de courant et qu'on retrouve effectivement au Moyen-Âge. On accuse aussi les enfants d'abandonner leurs parents, etc., de toutes sortes de choses qui sont assez courantes. Oui.
Et qu'on retrouve aussi, Mathilde, en 1832, au moment de cette épidémie de choléra.
Ah bah oui, de toute façon, on le dit depuis le début, hein, c'est les épidémies, ça révèle énormément de choses des sociétés, donc ça révèle les inégalités de classe, hein, les inégalités de fortune, avec des mortalités différentielles entre les riches et les pauvres. On va y revenir un peu sur le choléra, parce que le choléra a surtout frappé les classes populaires. Hein. Il y a eu des personnalités connues, célèbres, qui ont alimenté les les rubriques des journaux parce qu'on parlait d'eux parce qu'ils étaient connus, mais ceux qui sont morts essentiellement sont les plus pauvres dans les quartiers insalubres et ouvriers de la capitale. Et ça révèle les antagonismes de classe. Donc ça crée d'un côté effectivement une actualisation sanitaire de classe laborieuse, classe dangereuse, c'est-à-dire que les classes laborieuses ne sont plus dangereuses seulement politiquement ou criminellement comme on le pense dans les peurs sociales classiques, mais d'un seul coup on se met à considérer les classes laborieuses comme dangereuses sanitairement. C'est des classes laborieuses, classes contagieuses. Et ça c'est très net au moment du choléra, et d'ailleurs ça va le rester longtemps après. Et de fait, il y a des traitements différents. Mais à l'inverse, ça crée aussi des antagonismes de classe avec, dans les classes populaires au moment du choléra, des imaginaires du complot, la peur que ce sont les plus riches qui empoisonnent les pauvres, que les plus riches donc s'accaparent, ce qui n'est pas complètement faux, les mesures de précaution. Donc, de toute façon, ça creuse terriblement les antagonismes de classe, mais c'est un révélateur d'antagonismes de classe qui sont antérieurs. Là, dans cette scène à Château-Rouge, il faut voir que ça fait quand même… C'est comme ça que dans ces quartiers, Château-Rouge, et ce serait pareil si on allait en banlieue, que l'on parle aux populations. Et en fait, ça révèle ça, c'est atroce.
Château-Rouge, c'est le premier extrait qu'on a vu.
Mais bon, en même temps, quand souvent la police arrive à Château-Rouge ou la police arrive à Aubervilliers, malheureusement, c'est comme ça qu'on parle aux gens, quoi.
Patrice Bourdelais, une des idées reçues sur les pandémies, c'est tout le monde égal devant l'épidémie, tout le monde égal devant la mort, etc. C'est faux.
Je crois, oui. Peu d'historiens ont dû tenir ce propos, d'ailleurs. Je pense que dans la plupart des cas, il y a un gradant social très, très important de la mortalité face à une épidémie. Pour en revenir au sujet que vous avez présenté, au fond, il ne faut pas oublier que l'épidémie, c'est un moment d'exacerbation de la biopolitique, du biopouvoir, de la discipline, si je parle en termes foucauldiens. Au fond, on est là. C'est un moment vraiment d'exacerbation. C'est-à-dire que dans la mesure où il faut contrôler les populations, contrôler leur mobilité, les isoler, vous êtes effectivement sur des dispositifs de contraintes très très forts, sachant que dans l'histoire, il y a toujours eu antagonisme, au fond, deux antagonismes, un couple d'antagonismes, liberté individuelle, sécurité sanitaire collective, donc il faut savoir où on positionne le curseur, et puis l'autre, c'est effectivement entre sécurité sanitaire et poursuite des activités économiques et sociales.
Oui, voilà, ces deux couples d'antagonisme, on les retrouve dans toutes les épidémies que vous avez étudiées.
Oui, tout le temps. Et pour en revenir aux populations laborieuses, populations dangereuses, il ne faut pas oublier que, au fond, les épidémies de choléra du 19e siècle, qui a été mes premières études de l'épidémie, en fait, ont généré un mouvement hygiéniste et ont renforcé un mouvement hygiéniste très fort. Et dans le mouvement hygiéniste, il y a une partie, certes, qui aboutit à de la rénovation urbaine brutale, je pense aux politiques haussmanniennes, mais aussi tout un volet d'éducation, de culture sanitaire et d'éducation à l'égard de la population. Populaire.
Voilà, vous m'amenez la transition, puisque effectivement, je voulais aussi qu'on parle de l'après-épidémie et, même si ça peut paraître paradoxal de le dire comme ça, des effets éventuellement bénéfiques, avec toutes sortes de guillemets, des épidémies. Je voudrais qu'on écoute un passage d'une allocution récente d'Emmanuel Macron qui a beaucoup frappé.
Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre état-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai.
Voilà, donc la France ébahie a découvert un Macron faisant l'apologie de l'État-providence et du service public. Alors, on entend beaucoup dire à propos de la Grande Peste, Joël Chandelier, c'est grâce à la Grande Peste, enfin, la Grande Peste a contribué à l'abolition du servage. Qu'est-ce qu'il en est ?
Eh bien, en fait, non, pas du tout. En fait, c'est une sorte de légende. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de Grande Peste, donc, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à imaginer, que la moitié de la population, en l'espace de moins d'un an, hein, dans les différentes régions, disparaît. Et donc, un effet immédiat, ça a été le manque de main-d'œuvre, puisque dans certaines villes notamment, et dans certaines campagnes, il y avait des terres non exploitées, donc on avait besoin de paysans, et donc les salaires ont augmenté immédiatement pour les prolétaires, c'est-à-dire ceux qui vraiment travaillaient de leurs mains et avaient un salaire. Mais immédiatement, la décision des États, à l'Angleterre, dès 1349, c'est-à-dire l'année qui suit, la France a suivi un ou deux ans après, ont pris des statuts qui limitaient les salaires, qui interdisaient aux salariés de négocier leur salaire avec leur... parce qu'ils étaient évidemment en position de force, ils pouvaient se déplacer aussi. Donc au contraire, en fait, ça a renforcé la soumission, alors particulièrement en Angleterre, ce qui a même abouti plusieurs décennies après à une grande révolte des paysans, contre justement toutes ces mesures restrictives et extrêmement dures mises en place par les autorités. Donc c'est pour ça que, pour revenir au discours de Macron, ça peut avoir des effets, enfin, ça aura des effets, c'est certain. Est-ce que ce sera des effets, disons, positifs d'un point de vue collectif par exemple, de défense de la sécurité sociale? C'est beaucoup moins certain parce que, comme on l'a dit, tout le monde n'est pas touché par cette maladie de la même manière. Ceux qui ont les moyens, finalement, le fait qu'il y ait un service de santé accessible à tous ne changera pas grand-chose pour eux. Donc, je ne suis pas du tout certain qu'au-delà de l'émotion actuelle, qui évidemment crée quelque chose, en réalité, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, les antagonismes qui existent, les inégalités, les intérêts divergents ne vont pas changer à cause de l'épidémie et tout le monde n'aura pas intérêt, disons, à un système de mise en commun de ces biens.
Vous avez parlé de l'aller-retour sur les salaires, mais pour ce qui est du servage proprement dit, du statut du servage?
Eh bien, le statut du servage, justement, il a été renforcé, alors pas partout, mais particulièrement en Angleterre ou même en Catalogne, précisément parce que le servage, c'est quoi? C'est une forme, c'est pas de l'esclavage, c'est une forme de contrôle très très fort sur les individus qui n'ont par exemple pas le droit de se déplacer, de changer de métier, de quitter la terre à laquelle ils sont attachés et le seigneur dont ils dépendent. Or, comme on manque de bras, précisément, on a plutôt tendance à renforcer cette contrainte qu'elle a diminuée, parce que si on laisse partir les serfs, au contraire, on aura... Alors, eux ont intérêt à partir, évidemment. Donc, il y a eu des fuites. Ça, c'est certain que des serfs se sont enfuis, en ont profité pour aller travailler ailleurs dans de meilleures conditions. Mais les autorités seigneuriales et aussi nationales ont très rapidement pris des mesures pour empêcher ça. Donc, ça dépend un peu des régions et de la force du pouvoir. En Angleterre, où le pouvoir était très fort, ça ne s'est pas du tout amélioré pour les paysans, au contraire.
Alors, s'agissant de la grippe de Hong Kong, si j'ai bien compris, il y a tout de même un aspect positif, c'est qu'on se met à réfléchir à la nécessité de fabriquer des vaccins en grande quantité.
Alors, il y a au moins cet aspect positif-là, oui. La production de vaccins avait été antérieure, elle avait commencé, au fond, lors de la grippe asiatique en 1957, un petit peu avant, mais en quantité limitée, et c'est vraiment la grippe de Hong Kong qui décide, les pouvoirs publics, à encourager fortement la production des vaccins et la vaccination des personnes âgées. La priorisation de la vaccination antigrippale pour les personnes âgées date des lendemains de la grippe de Hong Kong, absolument. C'est l'un des effets bénéfiques. L'autre, sur le plan scientifique, c'est que c'est à partir de la grippe de Hong Kong et de la qualité des relevés des données dans le monde entier que l'on a pu modéliser les épidémies.
Bon, et alors le choléra, l'après-choléra en France au 19e siècle, Mathilde, on entendait parler de progrès de l'hygiène. Comment ça se passe?
Ce qu'il faut voir, c'est que quand même avant d'ailleurs le choléra, il y a eu une prise de conscience sanitaire et donc des autorités publiques que le problème, c'était l'insalubrité des logements et par voie de conséquence des quartiers dans les grandes villes et plus encore à Paris. On le voit parce que, par exemple, dès 1831, donc l'épidémie n'est même pas arrivée, la ville de Paris lance, et on trouvera ça dans d'autres villes, une grande enquête de salubrité qui va pousser, on va créer des commissions de salubrité qui vont inspecter partout dans les quartiers populaires de Paris, c'est-à-dire du centre, hein, faut savoir qu'à l'époque, c'est le centre de Paris qui est le cœur du Paris populaire. Et ils passent dans toutes les rues, dans toutes les maisons, ils font un relevé de tout, l'insuffisance des pavages des rues, donc résultat, il y a de la terre, résultat, il y a de la boue, l'insuffisance des fontaines publiques, les dépôts d'immondices, on décrit les immeubles, les problèmes de gouttières, on constate par exemple qu'il y a dans plein de cours des véritables basses-cours avec des animaux qui peuvent être porteurs de maladies. Donc voilà, on a fait le constat avant l'épidémie. Et le problème, c'est qu'on ne fait rien. Et on ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudrait que ce soit les propriétaires d'immeubles qui fassent des travaux, sauf que ces propriétaires d'immeubles sont des marchands de sommeil qui font leur beurre en louant des appartes insalubres à des ouvriers qui s'y entassent. Et ces propriétaires n'ont absolument aucune envie de faire des frais d'assainissement qui feraient baisser leurs bénéfices en termes de location. Donc, on ne fait pas grand-chose. Ensuite, pendant l'épidémie, l'État va prendre des mesures d'urgence, hein, ce qui relève du moins de ses prérogatives. Par exemple, le submergement du fossé de l'île Louviers. Alors, l'île Louviers, vous ne la connaissez plus parce que maintenant, elle a été rattachée au bord de Seine. Voilà, c'était une île qui était devant l'île Saint-Louis. Mais en fait, à l'endroit où arrivaient les eaux du canal Saint-Martin, il y avait un véritable cloaque dégueulasse. Donc là, on le fait couvrir et on installe quelques bornes fontaines. Et on fait tuer donc les animaux des basses-cours qu'on avait repérés. Mais voilà, on ne peut pas non plus faire énormément de choses. Et par la suite, on va continuer dans ces démarches d'assainissement, alors avec les deux préfets de Paris à l'époque qui s'en occupent. Il faut savoir qu'à Paris, il n'y a pas de maire à l'époque, hein, il y a un préfet de police et un préfet de Paris, et chacun, suivant son domaine d'administration, fait ce qu'il faut faire. Rambuteau commence à faire les premières percées, les premiers assainissements, installe un certain nombre de bornes fontaines, les fameuses fontaines Rambuteau, cependant que Delessert puis Gisquet s'occupent aussi du pavage, de l'assainissement, ce qui n'aura pas immédiatement des effets. Il faudra effectivement attendre l'haussmannisation pour qu'on ait un véritable assainissement de Paris, mais un assainissement qui ne fait que repousser le problème, parce que l'haussmannisation a eu pour effet finalement d'assainir Paris, mais donc aussi de l'embourgeoiser, et les classes populaires qui vivaient avant au centre de Paris dans des conditions insalubres vont se retrouver à vivre aux marges de Paris et en banlieue dans les mêmes conditions insalubres, mais Paris va être assaini. Donc il y a des conséquences s'agissant des classes ouvrières, elles ont été déplacées au bout du compte, puisque voilà. Finalement, pendant les épidémies, en gros, c'est les riches qui se tirent pour se protéger en diffusant la maladie, et après les épidémies, en tout cas pour l'haussmannisation, on a viré les ouvriers.
Voilà, bon, je ne sais pas si c'est les constatations que vous faites tous les trois sont très réconfortantes pour tous ceux qui nous regardent et qui sont confinés aujourd'hui et qui peuvent être caressés par l'espoir que l'après-pandémie sera radieux, mais en tout cas, je pense qu'il est utile de nous rendre lucides. Oui, Mathilde ?
L'après-épidémie sera d'autant plus radieux qu'on sera mobilisé pour s'assurer qu'il le soit. C'est-à-dire que là, je ne suis plus historienne, mais je mets plutôt ma casquette de militante. Il ne faut pas qu'on lâche, quoi. C'est de fait. Et par ailleurs, c'est lié, hein, quand on voit la suppression du personnel hospitalier, du nombre de lits à l'hôpital, donc les conséquences d'une politique libérale sur l'hôpital, dont d'ailleurs tout le personnel soignant nous a alarmés depuis 2-3 ans et en disant s'il se passe quelque chose, et puis ça rigolait quand il y avait des visites ministérielles, ben voilà. Voilà, maintenant on le voit.
Ce que dit Mathilde m'inspire une question. Au Moyen-Âge, en tout cas dans l'épidémie de la Grande Peste, on ne trouve pas trace de contestation de l'ordre social de la part des contaminés, de contestation de la structure féodale, de rébellion, quelle que soit sa forme, contre l'injustice et les inégalités du système féodal. Il n'y a aucune trace de ça.
Non. Pas au moment de l'épidémie. Il y a des moments de violence, notamment contre des boucs émissaires qui vont être, par exemple, les mendiants qui sont accusés d'empoisonner, ou les juifs dans certaines régions qui vont être accusés, qui peuvent parfois être aussi l'expression d'un malaise social qui s'expriment comme ça par l'antisémitisme ou autre. Par contre, par la suite, oui, quand même, on pense qu'il y a eu beaucoup de révoltes dans les décennies qui ont suivi, des révoltes paysannes, des révoltes urbaines, extrêmement nombreuses, alors qu'elles sont liées aussi à d'autres choses. Mais c'est certain que ça a ébranlé la structure de la société et ça a contribué à des remises en question, des questionnements. Et je pense que, un peu comme le disait Mathilde, il y a quand même des conséquences potentiellement positives, ne serait-ce que par la prise de conscience de l'impossibilité de vivre exactement comme avant. Hein, et ça, je pense qu'on peut le dire, cette épidémie d'aujourd'hui, elle est liée au monde tel qu'on vit, notamment au transport, à la mondialisation. Et donc, la mondialisation ne pourra plus être exactement pareille de la même manière que les pestes sont revenues tous les 10 ans après et qu'on devait prendre des mesures durables. Alors, est-ce que ce sera pour le bien ou pour le mal? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, que ça change sur la durée, ça, c'est certain. Ce n'est pas un épisode, à mon avis, et la peste noire le montre très bien, qui se referme et d'après dont on ne parle plus. Hein, il y a des retours, il y a un changement profond.
Au XIVe siècle, on trouve des traces de cette prise de conscience, on trouve des traces de modifications allant, entre guillemets, dans le bon sens.
Alors, déjà, par exemple, les mises dans les villes, on voit une volonté d'assainir, là aussi, les villes. La quarantaine, par exemple, est inventée quelques décennies après. Il y a des volontés, c'est un peu les mêmes genres de mesures, d'ouvrir les villes, c'est-à-dire de faire plus d'espace pour que l'air circule mieux. Donc, il y a ce genre de mesures. Des mesures aussi de la création d'institutions de santé urbaine. Un chef de la santé qui surveille, un peu comme aujourd'hui, qui donne des conseils aux souverains pour qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter toute crise sanitaire. Donc voilà, ce genre de choses existe, bien sûr.
On crée le ministre de la Santé après la Grande Peste. Ça, c'est une information.
Alors, ministre, pas vraiment, mais dans les villes, il y a alors, il peut porter plein de noms, mais ça va être le commissaire à la santé, le chef de la santé, qui est souvent ou un médecin ou un grand officier qui a des connaissances et qui effectivement conseille et donne son avis sur faut-il fermer la ville. Voilà. Donc effectivement, genre d'institution urbaine apparaît à ce moment-là.
Mathilde ?
Oui, non, pour rebondir sur le fait qu'il y a des contestations pendant les épidémies, celle du choléra en est finalement un exemple parfait puisqu'il y a une émeute au cœur de l'épidémie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épidémie commence en mars, elle est forte en avril, elle commence à décliner fin mai et elle va recommencer en juillet. Donc, il y a un creux en juin, enfin, fin mai-juin. Or, en fait, ce qui s'est passé donc, dans les personnalités importantes qui sont mortes de l'épidémie de 1832, non des moindres, le chef du gouvernement, Casimir Perier, est mort de choléra. En fait, le roi qui, Louis-Philippe, se la jouait un peu roi thaumaturge, et puis aussi pour montrer qu'il était préoccupé des malades, visite avec sa famille et le gouvernement, voilà, sur le tableau, les malades du choléra. Et même si lui ne sera pas contaminé, le Casimir Perier est contaminé lors de cette visite et décède le 16 mai. Et le 22 mai, donc on est juste après la mort du chef du gouvernement, 39 députés de l'opposition vont se réunir et publier un compte-rendu très critique de la politique libérale menée par le gouvernement Perrier depuis la Révolution et dénoncer toutes les trahisons des promesses de juillet. Et publier ce manifeste va faire l'effet d'une bombe. Alors, il ne parle pas directement du choléra, mais puisque c'est surtout toutes les promesses de juillet, mais il est dans ce contexte. Et donc, il va galvaniser l'opposition républicaine qui est déjà très mécontente de la mortalité différentielle et de tout ce qui se passe. Le 5 juin 1832, alors qu'on enterrait une autre victime célèbre du choléra, le général Lamarque, qui est un député de l'opposition, eh bien, dans le cortège funéraire, un drapeau rouge est brandi. En fait, tout avait été préparé en amont par les sociétés républicaines. À la vue du drapeau, les forces de l'ordre vont réagir, vont tirer, c'est le signal. Les insurgés se réfugient dans les quartiers populaires qui sont aussi les quartiers de l'épidémie, les barricades, et commencent ce que l'on appelle l'émeute de 32. Une émeute que vous pensez ne pas connaître, mais qu'en fait vous connaissez peut-être tous et toutes, parce que c'est celle que raconte Hugo dans Les Misérables. Gavroche, dans Les Misérables, meurt au cœur de l'émeute du 5 et 6 juin 1932. Il semblerait que les journaux de l'opposition aient à ce moment titré que le choléra blocus succédait au choléra morbus. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le journal qui dit ça, c'est dit par André Castelot, qui cite, lui, Heinrich Heim dans son livre sur Louis-Philippe. Donc, il y a eu une émeute au cœur. Après, elle a été maîtrisée. Voilà. Ça montre qu'il y a des oppositions au cœur des épidémies.
Et un conseil de lecture supplémentaire au passage, puisque ces temps-ci, tout le monde multiplie les conseils de lecture, Les Misérables de Victor Hugo. Je pense que si vous le commencez maintenant, vous pourrez tenir jusqu'à la fin du confinement. Oui, Mathilde.
Je vous conseille aussi le livre de Thomas Boucher, dont juste là, je ne me souviens plus du titre, mais qui c'est à partir de sources, il invente 5 récits de gens qui à la fois vivent et le choléra et l'émeute, avec d'ailleurs une bourgeoise qui s'enferme dans sa maison complètement flippée.
Non, Mathilde. Non, mais tu sais que les librairies sont fermées et que ce n'est pas bien de commander sur Amazon. Donc
Si vous l'avez choisi, de colère et d'ennui, c'est hyper bien. C'est peut-être disponible en tablette. Hein. Et alors là, vous êtes au cœur du choléra et au cœur de l'émeute de juin 32. C'est magistral. Bravo Thomas.
Voilà, si c'est disponible en tablette. Merci à tous les trois pour cette discussion sur laquelle nous allons revenir maintenant, selon la toute neuve mais excellente tradition d'Arrêt sur image, avec Laëlia Véron, qui était bien cachée pendant l'émission et qui nous a écouté.
Je suis là.
Et la voilà, c'est magique. C'est beau. Elle nous a écouté en coulisses. Et Laëlia, tu vas t'arrêter sur les mots que nous avons prononcés ou pas. J'allais dire sur ce plateau, mais non, dans cette télédiscussion.
Eh bien oui, alors en plus, moi, forcément, bon, je suis censée improviser, mais je m'étais dit que peut-être que vous alliez parler de « Nous sommes en guerre » et qu'on avait parlé de ça. Eh bien, pas du tout, vous n'avez pas parlé de ça. Donc, je vais quand même jouer le jeu de l'émission et revenir sur les mots que vous avez prononcés ou pas prononcés. Tant pis pour mes idées. Oui, en fait, quelque chose qui m'a frappée en vous écoutant, c'est qu'on a parlé d'autres maladies, d'autres pandémies, mais on a très peu dit le mot « coronavirus ». En fait, on dit épidémie, maladie. Et ça m'a donné envie de m'interroger justement sur les mots qu'on emploie pour désigner ces maladies et sur ce qu'ils peuvent signifier. Parce que coronavirus, c'est un mot qui reste quand même technique. Virus couronné, ça désigne, ça reste abstrait pour le commun des mortels, ça désigne la forme du virus, mais que peuvent voir les scientifiques. Et ça montre que la manière de désigner le virus, et donc peut-être le discours sur le virus, actuellement reste scientifique. Ce qui n'est pas forcément un problème, parce que la seule renomination que j'ai vue du virus pour l'instant, c'était Trump qui disait « Chinese virus ». Donc bon, c'était peut-être pas la meilleure dénomination qu'on pourrait trouver, parce qu'une parole affective, ça peut être aussi une parole qui glisse vers le racisme. Mais moi, je pense que ça montre qu'on emploie toujours ce mot « coronavirus », qu'il n'ait pas encore été rebaptisé en quelque sorte. Ça montre qu'on est en plein, alors qu'on est en plein dedans, il ne s'est pas encore installé dans nos représentations, dans nos affects, contrairement au choléra et à la peste. Et je voudrais revenir rapidement sur ces mots-là, justement, peste et choléra, et qu'est-ce qu'ils signifient. La peste, c'est un mot beaucoup plus imagé que coronavirus, parce que ça vient de pestis, c'est le fléau, la ruine, la destruction. Et c'est un mot qui a donné lieu à beaucoup de dérivés. On a pestiféré, on a empesté. On a de manière plus sympathique être une peste, être une petite peste. Et je me demande, bien sûr, le coronavirus, une fois qu'il sera installé dans les esprits, dans les représentations, va aussi s'installer dans le langage et donner lieu à des dérivés. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour la peste, du point de vue littéraire, on a bien sûr la peste de Camus. C'est une maladie qui a beaucoup été représentée aussi en littérature. Si on revient sur le mot choléra, le choléra, au départ, c'est comme le coronavirus, c'est un mot un peu technique, puisqu'il est censé, si je ne me trompe pas, dire que c'est un mot qui vient de la bile, une maladie qui est liée aux déjections de bile. Mais c'est un mot qui est aussi devenu très imagé, aussi bien que le mot peste. D'ailleurs, on dit choisir entre la peste et le choléra, hein, pour dire les pires maladies, les pires situations. Et puis, Mathilde l'a expliqué, le choléra, il est devenu tout de suite très imagé, très représenté, notamment avec cette question de la peur bleue. Et il y a des représentations littéraires qui sont saisissantes. Là, vous conseillez à Les Misérables, si vous voulez avoir une bonne lecture qui est en accès libre sur Internet, c'est Le Juif errant d'Eugène Sue, où il y a une scène, c'est exactement ce que raconte Mathilde sur ces mascarades. Comment est-ce que justement on faisait des espèces de carnaval, de mascarades pour défier la maladie. Et je vous lis juste un tout petit extrait, parce qu'en plus, ça m'a fait aussi penser à ce que vous disiez sur les classes sociales. Parce que c'est l'extrait, donc, c'est quand les gens vont se masquer, s'organiser pour défier le bonhomme choléra. Et donc, le bruit avait couru qu'une mascarade s'organisait afin de narguer le choléra et de remonter par cette joyeuse démonstration le moral de la population effrayée. Donc, tout le monde se déguise. Et qu'est-ce que nous dit le texte ? Du reste, à Paris seulement, et seulement dans une certaine classe de la population, une pareille idée pouvait naître et se réaliser. Là, la classe de la population, c'est un peu le demi-monde, les ouvriers, Et il y a des gens qui sont donc déguisés et qui vont narguer le choléra. Et c'est une scène qui est absolument incroyable. Et ça contribue aussi, bien sûr, à ce que tout ça, à ce que la maladie entre dans les imaginaires. Et juste un mot à partir du terme grippe. Au départ, c'est aussi un mot qui est très imagé, grippe, parce que de quoi ça vient ? Je ne sais pas si vous savez, ça vient de la griffe, de ce qui vous attrape, et de ce qui vous attrape assez rapidement, qui vous saisit. Et on a bien sûr l'expression « prendre en grippe ». Et pourtant, le mot n'éveille pas les mêmes réactions que peste ou que choléra. Et c'est sans doute à cause des raisons qui ont été aussi expliquées pendant l'émission. Donc voilà, je pense qu'en conclusion, même dans des situations comme ça, on fait nous les linguistes, on fait notre travail de linguiste. Je pense que le fait qu'on ne nomme pas encore le virus autrement que par un terme technique spécialiste, sachant qu'en plus, on est dans un climat, dans un contexte de méfiance vis-à-vis des paroles spécialistes, politiques, médiatiques et dans une certaine mesure scientifique de la médecine, le fait qu'on ne nomme pas encore le virus, qu'il n'y ait pas encore des dérivés, que ce terme reste technique, c'est peut-être l'illustration langagière qu'il n'y a pas encore de représentation collective populaire de ce virus, mais aussi malheureusement de ses dangers. Et je pense qu'on peut mettre ça en rapport avec l'inconscience au sens propre du mot, de la situation et de ses dangers.
Il faudrait inventer un mot pour que la population devienne plus consciente. En même temps, il y a un match.
Tu sais ce qui est
fait ? Attends, il y a un match aujourd'hui entre coronavirus et un nom encore plus scientifique qui est le Covid-19. Et apparemment, le Covid-19 n'a pas tout à fait réussi à détrôner le coronavirus. C'est-à-dire,
Oui, on le voit dans la communication du gouvernement, dans les hashtags. Mais juste pour répondre, une représentation qui a été faite, c'est par les dessins d'enfants. Il y a des enfants qui, justement, dessinent là le coronavirus et qui reprennent cette image qui, au départ, est scientifique. Hein, qui peut voir cette forme, c'est les scientifiques. Et là, les enfants s'en saisissent ça. Peut-être que c'est une appropriation un peu populaire de justement ce qui, au départ, est très technique, scientifique, la forme, qui devient pour le coup imagé.
Enfin, moi, j'ai noté quand même une apparition de Corona Péro. Hein, pour désigner les apéros Facebook des confinés. Ah.
Oui, ça forcément. Il y aura des dérivés, ça c'est sûr. On va noter les.
Allez, merci à tous les quatre. Et je crois que maintenant, il est de bon temps de dire quand on prend congé, prenez soin de vous.
Je le dis
donc, et à la semaine prochaine.
Et comme disait Mathilde, merci.
Au revoir.
Merci à tous ceux qui prennent soin de nous aussi.